Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mélancolique Rodéo, un livre de Jean-Michel Jarre.
Alors Jean-Michel, je vais vous demander, pour qui avez-vous écrit ce livre ?
D'abord pour moi.
Tout exercice de création est d'abord un exercice non pas égoïste, mais personnel. Beaucoup d'artistes font de la peinture, écrivent des livres, font de la musique pour eux-mêmes d'abord. Il faut déjà, enfin en tout cas pour moi, quand je fais un album, quand je fais de la musique, et ça a été la même chose pour ce livre, que ce livre me plaise sur le plan de la forme, enfin que j'ai l'ambition de faire quelque chose qui puisse, si j'étais le lecteur, me convenir. Et pour ça, je me suis beaucoup penché sur la forme. Je pense que dans n'importe quelle création, la forme est largement aussi importante que le fond, je dirais même souvent plus. Qu'est-ce qui différencie, au fond, une information et une création ? C'est la subjectivité qu'on va y mettre, c'est sa spécificité. Dans le cas d'un musicien, on a 12 notes, il faut faire avec. Et qu'est-ce qui fait qu'un musicien va être différent d'un autre ? C'est qu'il va organiser ses 12 notes d'une manière personnel. Et c'est la même chose pour un livre, c'est de se dire qu'est-ce que je peux apporter quand je vais sortir un livre de plus, avec les millions de livres qui sont déjà sortis, qui fasse que ce soit quelque chose de, avec l'ambition de faire quelque chose qui soit différent, personnel, spécifique.
Donc c'est pour vous d'abord. Quelle question Jean-Michel Jarre poserait à Jean-Michel Jarre s'il devait l'interviewer sur son autobiographie ?
Je pense qu'est-ce qu'il y a derrière les idées que les gens peuvent se faire de quelqu'un qu'ils peuvent connaître, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait Oxygène et qui a fait des concerts un peu partout autour du monde. Au fond, qu'est-ce qu'il y a autour ? Quelles sont les raisons pour lesquelles j'en suis arrivé à faire la musique que je fais ? Quelles sont les raisons pour lesquelles je suis arrivé à faire les concerts que j'ai pu faire ? D'où ça vient tout ça, au fond ? C'est la question que je me suis posée à moi-même, d'ailleurs, en écrivant le livre. Quand on écrit un livre ou quand on fait de la musique, ça correspond à une sorte de besoin. Et j'avais le besoin, à un moment donné, de cet exercice de sincérité, de partage, de transmission. Au fil des pages, j'ai vraiment l'impression que je décrivais la vie d'un autre et que cet autre avait eu déjà au moins plusieurs vies. Et c'est ça que j'ai eu envie de partager, de transmettre au lecteur. Moi, je suis toujours méfiant des autobiographies parce que on peut très facilement tomber dans une sorte de narcissisme indulgent. Et j'ai essayé d'éviter ça. Le luxe aussi d'une autobiographie, c'est au fond d'inviter autour de sa table, d'une table de salle à manger, les acteurs de sa vie qu'on aime ou qu'on aime moins, comme une sorte de grand dîner de famille. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, de vivre des moments inoubliables, et je trouvais que c'était intéressant de les montrer, de les partager, au-delà de l'image que je peux avoir pour les gens qui me connaissent, de ces grands concerts qui peuvent être peut-être un peu abstraits, ou d'une musique aussi qui elle-même a été considérée, même si elle l'est plus maintenant, pendant longtemps, comme une musique froide ou abstraite, la musique électronique dans son ensemble, je parle pas seulement de la mienne, mais de ce style de musique, et j'avais envie justement de montrer à quel point c'est tout à fait l'inverse.
C'est tout à fait l'inverse.
Mélancolique Rodéo, c'est un titre qui est personnel, bien sûr, mais j'ai envie de dire que c'est pour être le titre de beaucoup d'histoires, l'histoire de chacun. C'est-à-dire que dans nos vies, il y a le côté rodéo, c'est-à-dire le fait que c'est difficile de rester sur sa monture, qui que l'on soit. Et puis en même temps, il y a derrière les moments de bonheur, une mélancolie sous-jacente qui est inhérente aux êtres humains, au fond. C'est pour ça que je trouvais que c'était à la fois un titre personnel, mais un titre qui est aussi assez universel, qui peut s'appliquer à beaucoup.
Il y a derrière les moments de bonheur, une mélancolie sous-jacente qui est inhérente aux êtres humains.
Souvent dans une autobiographie, il y a un cahier central de photos, et c'est un truc que j'aime pas. On lit quelque chose au premier chapitre et puis au milieu du livre, on retrouve des photos qui correspondent à des choses qui ont été lues avant ou qui n'ont pas encore été lues. Et moi, j'avais envie justement qu'il y ait une sorte de synchronisme entre ce qu'on lit et ce qu'on voit. Et aussi, je sais que ça, c'était personnel, mais j'avais pas envie nécessairement de mettre la photo de ma grand-mère, de mon grand-père. Au fond, bon, ce que j'aime bien, moi, dans la lecture, c'est l'imagination. Le livre est probablement un des objets les plus interactifs qui soit, dans la mesure où on rêve les personnages. On les imagine. Quand on lit Proust, quand on lit Stendhal, quand on lit Bret Easton Ellis, on a une idée des personnages. Et moi, j'ai pas envie de voir les photos. Je suis comme les premiers enfants qui ont lu Harry Potter et qui ont été extrêmement déçus de la gueule d'Harry Potter sur les écrans. Après, ils s'y sont habitués parce qu'il y avait une telle machine de marketing. On sait maintenant, Harry Potter, on voit cette tête-là. Mais au départ, il y a très peu de photos de personnages de ma vie dans le livre. C'est-à-dire que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand je décris les yeux verts de Gabriel, qui sont les yeux verts de ma grand-mère, que les gens fantasment sur l'image de ma grand-mère que je décris plutôt que de la montrer. C'est la force de la littérature.
C'est la force de la littérature.
C'est une manie, c'est une sorte de toc que j'ai. Pour commencer un projet, il faut que j'ai un objet. Alors, par exemple, à chaque fois que je commence un album, il faut que j'ai un nouveau synthé. C'est un truc de gosse, mais bon, c'est comme ça. Ça me permet de rentrer dans l'exercice de création. Et pour le livre, c'était la même chose. Il fallait que je trouve un objet. J'ai trouvé cet objet qui est absolument génial, qui est en fait une sorte de Remington, les machines à écrire classiques, mais qui est une Remington Bluetooth. Du coup, on peut mettre son iPad sur cette machine et on peut taper donc à la machine totalement old school avec le bruit des touches, qui est quand même très important pour moi, mais en même temps en utilisant toute la facilité de la technologie d'un iPad par exemple. Mais en fait, ceci étant, je voudrais quand même faire l'éloge de la rature. Le fait d'écrire à la main, vous avez la rature qui est extrêmement importante. Et la rature avec l'iPad ou avec même une machine à écrire, finalement, on passe de la rature à l'effacement. Et l'effacement est quelque chose qui est quand même problématique. Mais comme je suis un gaucher contrarié, il était exclu que je puisse écrire à la main. J'aurais pas pu me relire moi-même, encore moins mon éditrice, donc c'était pas possible.
Si on veut écrire en écriture spontanée, si on écrit de la main gauche, on va pas écrire la même chose. Enfin, il y a des choses qui fonctionnent.
Ah, mais c'est
pas.
Sûr.
Vous qui êtes gaucher contrarié, donc du coup, vous avez de votre main droite, une sorte de spontanéité peut-être différente des autres.
C'est vrai que c'est intéressant. L'accident est toujours extrêmement positif dans la création. Effectivement, je pense que je suis complètement d'accord avec vous. Le fait d'écrire avec la main qui n'est pas nécessairement la main de la raison, je pense que certainement ça a une conséquence. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé les mots et j'ai mis les mots à certains moments, des mots, mes mots, M-O-T-S et M-A-U-X, comme je le dis dans le livre, dans la bouche des autres, notamment dans celle de Christophe avec les deux albums que j'ai fait pour lui, Les Mots Bleus et Les Paradis Perdus, et puis aussi pour d'autres artistes comme François Hardy, comme Patrick Juvet, où j'ai écrit nombreuses chansons, dont Où sont les femmes, qui est l'hymne de la Gay Pride, donc je suis très fier. Voilà, très très bien. Aborder le livre à travers les objets, c'est une manière de rompre avec la chronologie d'un parcours. C'est-à-dire de pouvoir jouer avec la temporalité, si j'ose dire, de pouvoir passer du présent au passé, de rompre cette logique. Et aussi que la photo des objets arrive au moment où j'en parle. Et du coup, la photo de l'objet est intéressante parce que justement, elle permet d'être une sorte de porte à l'imaginaire. C'est pas comme de montrer un personnage. De montrer un objet, c'est justement d'expliquer pourquoi cet objet est important et pourquoi, pour moi, c'est aussi un exercice d'imagination et un exercice de souvenir.
Est-ce que d'être toujours créatif, c'est le secret pour être un Jean-Michel Jarre après?
Ah bien sûr, moi je pense que c'est inhérent dans mon trajet, et c'est inhérent dans le trajet d'un créateur, j'imagine. Je pense que le paramètre de la création, pas seulement pour moi, mais de manière générale, c'est sans doute ce mélange entre la curiosité, la frustration et l'espoir. La curiosité, c'est-à-dire d'être toujours intrigué par le monde extérieur. La frustration, à chaque fois que je fais quelque chose, je suis pas vraiment satisfait et je me dis je pourrais faire mieux la prochaine fois. Et l'espoir, quel espoir de pouvoir faire mieux justement la prochaine fois. La création pour moi c'est une addiction. Vous avez des moments de bonheur, mais c'est quelque chose qui vient très rapidement une obsession. C'est-à-dire l'obsession du résultat parfait, de l'idéal. Je pense que ce qui me, en fait, et ce qui fait simplement continuer un créateur, c'est l'idée d'un jour de faire le morceau de musique idéal, le roman idéal, le film idéal. Et on sait quelque part qu'on n'y arrivera jamais. C'est comme une sorte de savonnette qui vous glisse entre les doigts, une sorte de mirage vers lequel à certains moments on a l'impression de se rapprocher, mais qu'on n'atteindra jamais. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de retraite pour un artiste. Si le corps vous suit, bah vous créez jusqu'à la fin de votre existence physique.
Est-ce que cet échec annoncé n'est pas justement la seule motivation valable pour un artiste ?
J'aime bien l'idée de l'échec annoncé, parce que c'est un peu ça, finalement. Mélancolique Rodéo s'applique exactement à notre sujet, à notre conversation. Et puis aussi, pour les créateurs hommes, le fait de... Alors, les créatrices ont beaucoup de chance par rapport aux créateurs, parce que les créateurs hommes, finalement, essayent de concurrencer la femme sur le fait qu'ils ne pourront jamais donner la vie. C'est pas eux qui le donnent. Donc, il y a une infériorité de base, ce qui est paradoxal par rapport au fait qu'on a toujours considéré que le mâle était dominant. Je pense que c'est l'inverse. La femme a eu peut-être moins le besoin de s'exprimer à travers un domaine artistique parce que justement, elle crée de manière ultime en donnant la vie. Celle que j'envie vraiment, c'est justement la femme qui à la fois peut donner la vie et qui en plus peut être écrivain, cinéaste ou musicienne. Une vie pourrait être rapportée à une journée. On est le matin et qu'on va partir à la fin de la journée. Moi, à l'âge que j'ai, bah finalement, j'ai fini de dîner, quoi. Mais comme je me suis toujours couché tard, j'espère bien quand même que la nuit sera longue. C'est pas une raison pour se laisser aller. On a un rapport avec le temps qui évolue avec l'âge. C'est-à-dire que on a une notion de l'infini quand on est enfant. C'est-à-dire que le temps n'existe pas pour un enfant. Les enfants peuvent connaître l'ennui dans une journée. Et alors qu'en fait, plus on va, plus on s'aperçoit que le temps va vite. On se dit tous, qu'est-ce que ça passe vite, que c'est incroyable, etc. C'est pas quelque chose qu'un enfant dirait. Un enfant dirait, au contraire, qu'une journée, c'est comme une vie. Alors que nous, c'est le contraire. Et l'autre chose, par rapport au temps, c'est le fait que quand on devient adulte, on prend conscience du temps qui passe. Et quand vos parents disparaissent, vous avez une relation avec le temps en fonction du temps qui reste. Et ça, c'est pour moi assez fondamental. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est les prochains. Et donc, du coup, on commence à réaliser qu'il nous reste un certain nombre de battements de cœur. Et ça, c'est quelque chose qui, en ce qui me concerne, qui était une idée que je n'avais absolument pas tant que mes parents étaient vivants.
Et maintenant, vous les comptez? Vous avez une notion du nombre de battements de cœur? Alors maintenant,
vous avez des montres qui vous permettent de regarder vos battements de cœur, pas de les compter. Enfin, je suis pas obsédé à ce point-là. Un autre chapitre que j'aime bien, que je voulais avoir dans le livre, c'est l'idée justement de la relativité du temps. Et aujourd'hui, la femme dans ma vie qui s'appelle Gong Li, la grande actrice chinoise, la Chine a un rapport avec le temps qui est très particulier. Et elle m'a offert cette montre que j'ai d'ailleurs, qui est une montre avec une seule aiguille. Et qu'est-ce que ça veut dire, une montre avec une seule aiguille? C'est que finalement, on se fiche totalement de savoir, par exemple, on a commencé cette conversation à midi ou à 11h, mais quelle est l'importance de savoir si on l'a commencé à 11h03 ou 11h07? C'est pas très important. Et dans un monde où on compte les choses en millisecondes, c'est assez intéressant de se dire, au fond, que notre vie, elle est régie de manière biologique, pas du tout en termes de millisecondes, centièmes de secondes, mais elle est régie en termes de moments.
Notre vie, elle est régie en termes de moments.
On se souvient de la première émotion, celle-là reste gravée. Le premier concert, le premier match de foot, ou le premier opéra, ou la première rencontre, ce sont des moments éphémères qui durent peu de temps, dont on se souvient toute sa vie.
Notre vie, elle est régie en termes de moments.
Les concerts, pour moi, par exemple, que j'ai fait dans ma vie, qui sont des concerts en dehors des tournées, qui ont lieu qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième chance pour l'auditeur, spectateur et pour moi, c'est aussi offrir 2 heures de plaisir, j'espère, enfin de concert en tout cas, qui ne se reproduiront pas, mais qui peuvent rester gravés dans le cœur de quelqu'un pour le restant de ses jours.
Notre vie, elle est régie en termes de moments.
Mon premier concert que j'ai fait à la Concorde, en explorant quelque chose qui n'avait pas été fait jusque-là, qui était justement d'intégrer les techniques visuelles de projection d'images sur des bâtiments, etc. Depuis, et plusieurs personnes me l'ont dit, et moi ça me le fait aussi, c'est que je ne vois plus jamais la place de la Concorde de la même manière. Ça a duré 2 heures dans ma vie, mais je vois toujours les murs de la Concorde qui me regardent. C'est comme un spectacle de cirque. J'étais, moi, à Lyon, chez mes grands-parents, devant le cours de Verdun, devant la gare de Perrache, et sur ce cours de Verdun, il y avait des cirques qui venaient s'y installer. Et en fait, j'étais fasciné par le fait que la caravane arrive d'un bout de la rue, installe son chapiteau et parte le lendemain matin. Et ces moments-là sont des moments qui sont gravés dans ma mémoire, et qui pourtant ont duré très peu de temps.
L'originalité, la forme de votre livre, la fin du livre, la forme de la fin du livre, vos concerts, est-ce que vous la cherchez tout le temps, l'originalité, pour vous distinguer, pour qu'on vous distingue, ou est-ce que vous l'avez en vous?
On ne choisit pas d'être original. On est ce qu'on est. Fellini que j'ai rencontré, je raconte ça dans le livre, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi, dans ma vie, c'est que, il m'a dit, il était vers la fin de sa vie, lui-même, et il me dit, tu vois, Jean-Michel, j'ai toujours eu, moi, l'impression de faire des films différents dans ma vie, et je me rends compte aujourd'hui que j'ai toujours fait des variations de moi-même. Et on fait des variations de soi-même. Un artiste est original parce qu'il a ce qu'on appelle un style. C'est quoi son style? C'est finalement le fait de se décliner soi-même. On prend l'œuvre de Patrick Modiano, c'est un très très bon exemple, mais on peut prendre Picasso, les Beatles, Tarantino. Finalement, tous ces gens vous racontent la même histoire ou vous font partager le même univers. On fait toujours la même musique, on fait toujours le même livre, on fait toujours le même tableau. Simplement, il y a des gens qui aiment votre univers et qui le trouvent original parce que il vient de vous et il vient pas de quelqu'un d'autre.
Je suis constamment face à des situations qui sont inhabituelles.
Quand j'écrivais ce livre, j'avais l'impression de raconter la vie d'un autre. Ce que m'avait d'ailleurs dit ma mère aussi quand j'étais enfant, quand elle me racontait alors son propre trajet qui a eu des côtés beaucoup plus sombres et dramatiques que le mien, et, c'est-à-dire les horreurs de la guerre, le fait qu'elle a été une grande résistante et qu'elle a traversé en fait un moment de l'histoire de manière tragique et qu'elle s'en est sortie. Elle m'avait dit, quand je repense à ça et quand je te le raconte, j'ai l'impression de raconter la vie d'une autre. Et je le comprends aujourd'hui ce qu'elle voulait dire par là. En racontant mon parcours jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré des gens extraordinaires et je me sens extrêmement privilégié. Je ne sais pas pourquoi. Il se trouve que j'ai été... Alors, un parcours de vie, c'est à la fois un destin que vous ne maîtrisez pas, et moi il y a plein de choses que j'ai pas maîtrisées. Les concerts que j'ai pu faire, aucun de ces concerts n'a été initié par moi. Ce sont des choses qui me sont venues. Alors après, vous prenez le train ou pas? C'est ça aussi ce qui fait la différence. Il y a un train qui passe devant vous, est-ce que vous allez le prendre ou pas? Est-ce que vous allez, dans un sens, penser que dans toute opportunité il y a un risque et donc ça vous bloque, ou dans tout risque il y a une opportunité et vous la saisissez? C'est tout le problème du fait que vous allez choisir un chemin plutôt qu'un autre. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des gens tout à fait extraordinaires. Et des rencontres aussi, c'est aussi la rencontre elle-même qui est extraordinaire. Je prendrai un exemple qui est Salvador Dali, que je connaissais absolument pas, qui me contacte et qui me propose d'organiser avec lui un concert et un spectacle pour ses funérailles. Bon, ça n'aura pas lieu parce qu'il va mourir quelques temps après, mais c'est un moment incroyable. On pourrait le mettre dans une scène de film. Je suis constamment... Et ça, c'est une forme de destinée, mais je suis constamment face à des situations qui sont inhabituelles.
Vous ne faites que des trucs extraordinaires. Alors, si vous lisez le livre, vous verrez qu'il a rencontré des tas de gens. Est-ce que vous parlez de est-ce qu'il y a des fois des gens, genre, juste vous faites une rencontre extraordinaire, d'accord, mais avec des gens qui n'ont pas forcément des trucs extraordinaires, qui ne sont pas des grands photographes, des grands peintres, des grands cinéastes?
Bien entendu.
Ouf.
Je voudrais quand même remettre les choses à leur place. Il y a des gens extraordinaires qui sont pas nécessairement connus, mais qui sont extraordinaires c'est par leur qualité humaine, ce qui est la chose la plus importante. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens extraordinaires. Je me souviens que c'était en Inde, je crois, où il y avait un enfant qui était dans une rivière comme ça, et qui était tout nu, et qui éclatait de rire. Et donc j'ai demandé à l'interprète qui était avec moi de savoir pourquoi il riait. Et en fait, cet enfant n'avait absolument rien. Il n'avait pas de parents, il était orphelin, il n'avait pas de vêtements. C'était la pauvreté absolue. Il était simplement heureux d'être sous le soleil. Et ça, c'est une leçon de vie la plus extraordinaire. Et c'est peut-être, quand je pense à ça, peut-être la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée de ma vie.
Si vous êtes comme moi et que vous bougez pas de chez vous...
Non mais vous savez, alors, ça aussi, le voyage immobile... C'est très important. C'est Modiano. J'ai vu une émission de Modiano hier qui était assez intéressante. Et il disait une chose que je partage absolument, qui est le fait que pour écrire à propos d'une ville, par exemple, New York ou Pékin, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Parce que le fantasme et l'idée est intéressant. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, si je parle de ma grand-mère qui était une personne incroyable, le fait de ne pas la montrer est plus intéressant. À la limite.
On va à Bagdad parce qu'on rêve Bagdad et on voit une ville de rien du tout, quoi, par exemple, des fois.
Ah oui, surtout que Bagdad n'est pas nécessairement le meilleur exemple aujourd'hui.
Oui, mais c'est le seul qui m'est venu en tête, Jean-Michel. Pardon. Vous avez un papa extraordinaire. Vous avez une maman extraordinaire également. Il y a quand même une rue, je crois, à son nom.
Qui va en avoir une. Qui sera pas une rue, mais un passage. Et je suis extrêmement fier et heureux que ma mère, qui soit finalement la moins connue de nous trois, ce soit la première qui puisse avoir la mémoire de la rue, la reconnaissance éternelle comme ça, et de penser que des gens vont vivre, naître, s'aimer dans un passage qui porte le nom de ma mère est quelque chose d'effectivement de tout à fait émouvant.
Vous trouvez que la reconnaissance c'est important?
La reconnaissance importante c'est d'être reconnu pour ce que vous êtes vis-à-vis des gens que vous aimez et qui comptent pour vous. Le reste, la reconnaissance médiatique c'est tellement subjectif.
c'est tellement subjectif.
J'ai toujours bien aimé, finalement, être protégé par un écran de fumée, au sens propre, au sens figuré d'ailleurs. Puis il y a un moment donné où on a envie de passer à travers cet écran de fumée, comme on passera à travers un miroir, pour aller transmettre quelque chose d'autre. Et de ce point de vue-là, le livre en tant qu'objet est quelque chose qui à mon avis, restera. La musique que je joue, qu'on joue, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de l'air pour être transmise, mais elle disparaît dès que vous avez fini de la jouer. Un livre, une peinture, une sculpture, c'est quelque chose de tangible, alors que la musique est intangible. Donc, en tant que musicien, j'avais envie de rentrer dans le monde du tangible à travers, justement, un livre.
Je voudrais qu'on termine par une seule chose.
S'il y avait un objet à choisir, eh ben je choisirais le livre. Ce livre est plein. Et les Japonais définissent les objets par l'espace qui est autour. C'est l'espace autour qui définit l'objet. Et je dirais que ce livre, en fait, il est plein, pas seulement de ce qui est à l'intérieur, mais il est plein de tout ce qui est à l'extérieur que j'ai essayé de mettre dedans. J'aime bien cette idée du livre qui est en fait un objet qui se définit par l'espace qu'il occupe.
Ben merci beaucoup Jean-Michel.
Merci à vous.
C'était Mélancolique Rodéo, l'autobiographie de Jean-Michel Jarre.
Quand on dit « Ma vie est un roman », c'est à la fois la chose la plus con et la plus vraie qui existe. C'est-à-dire que la vie de chacun est un roman. Ça dépend comment on l'écrit.
Aux éditions Robert Laffont, un podcast du Poste Général.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.